Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons reçu Charlotte et Frédéric, deux intervenantes qui viendront nous parler de la ressource pour les personnes qui vivent avec l'Alzheimer. C'est la maison Carpe Diem. Ensuite de ça, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier mes deux partenaires, dont Via 95 FM et la Fondation Santé Bécancour Nicolet Yamaska, que je parlerai un peu plus davantage en mi-podcast. Également, j'aimerais remercier Donald Martel, député de Bécancour-Nicolet, de m'avoir appuyé dans ce projet. Donc, bon épisode! Bienvenue à Anti-Caché Podcast saison 1. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Bien, ça fait plaisir. Écoutez, moi je sais pourquoi je vous ai invité, mais avant qu'on commence à entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous promeniez quelques secondes pour vous présenter personnellement, me dire d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie, où est-ce que vous travaillez, puis on va embarquer sur d'autres sujets après que vous connaissez peut-être déjà.
OK.
Ben, vas-y, après.
Ouais. Frédéric Drolet, je suis intervenante aux familles à Carpe Diem depuis environ 2 ans. Mm-hmm. Moi, j'ai une formation en travail social. On en parlera peut-être un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais je suis un peu la porte d'entrée des familles qui viennent à la ressource pour des informations ou des services par rapport aussi à l'approche de Carpe Diem. Donc,
Carpe Diem, dans le fond, c'est une ressource pour les personnes qui vivent avec l'Alzheimer.
Oui, et autres maladies apparentées. Là, dans le fond, okay. Tout ce qui est troubles neurocognitifs.
Ah, OK.
Ouais.
Wow.
Moi, c'est Charlotte Bergeon. Oui. Je suis coordonnatrice de la maison Carpe Diem. Ça fait 17 ans que j'y travaille. Puis, à la base, j'en avais entendu parler dans mes cours à l'université en France.
Wow!
Comme quoi, Carpe Diem était enseigné dans mes cours, déjà en 2007.
Wow!
Ça m'avait beaucoup interpellée, en fait, parce que moi, je connaissais rien à la maladie d'Alzheimer, puis c'était pas particulièrement un public qui m'attirait. Mais dans les écrits, dans ce que je pouvais lire de cette approche-là, c'est qu'on mettait vraiment de l'avant la personne et non pas sa maladie ou son diagnostic. Oui. Et puis qu'on misait beaucoup plus sur les forces des gens plutôt que sur toutes leurs difficultés.
Oui.
Puis ça, je trouvais ça vraiment très, très intéressant, puis finalement applicable à n'importe quel public. Donc ça a été ça mon premier contact avec la maison Carpe Diem.
Wow.
Après, je suis venue y travailler.
T'as déménagé ici au Québec?
Oui, j'ai déménagé pour venir à Carpe Diem.
Wow! Wow! Puis ça, dans le fond, c'était quand le déménagement? En quelle année?
Je suis venue une première année à Carpe Diem pour travailler en tant qu'intervenante.
Ouais.
Donc, vraiment accompagner les gens dans leur quotidien, les accompagner à la salle de bain. Parce que mon projet, en fait, c'était d'être gestionnaire d'établissement de santé. Mmh. Mais je ne m'imaginais pas gestionnaire si je ne savais pas ce que pouvaient vivre les équipes. C'est quoi rentrer dans une salle de bain? C'est quoi réussir un accompagnement? Ou c'est qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est quoi le travail d'équipe? Quand est-ce que ça va bien, le travail d'équipe? Mais quand est-ce que ça va mal? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire pour que ça aille mieux dans l'équipe? Enfin bref, c'était une année très, très riche comme intervenante. Donc, ça, c'était en 2008 que je suis venue. Et puis, je suis repartie en France. J'ai fait une maîtrise en gestion d'établissement de santé. Oh. Puis après ma maîtrise, je me voyais plus nulle part que qu'ici.
Wow.
J'ai déménagé.
T'as vraiment eu la piqûre, dans le fond,
oui.
De la maison, puis de l'approche de la maison Carpe Diem.
Exact.
Si on essaie de situer un petit peu plus les gens, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est, des troubles neurocognitifs de l'Alzheimer. Mm-hmm. Puis on va parler aussi des services de la maison, de comment que tout fonctionne pour y accéder. Toi, je pense que c'est l'intervention familiale, comme tu as dit tantôt.
Oui.
Puis on va parler aussi de dans la maison, les intervenants, les programmes de répit, café rencontre, tout ça. Mm-hmm. Par quoi vous voulez commencer? Pour mettre les gens un peu dans le contexte de c'est quoi l'Alzheimer. Parce que, exemple, pour moi, au départ, oui, c'est ça, j'en ai appris un petit peu plus avec les recherches et tout, là. Mais pour moi, l'Alzheimer, c'était juste des personnes qui oublient. Mais pas, c'était pas juste ça, là, mais je parle de symptômes, pour moi, c'était que ça que les gens pouvaient vivre. Mais j'ai appris qu'il y a beaucoup plus de choses que ça engendre que ça pour la personne qui le vit, l'Alzheimer. Mm-hmm. Fait que pouvez-vous un petit peu expliquer, selon votre point de vue à vous, selon vos connaissances, ce que vous avez appris?
Peut-être ce qu'on voulait mettre de l'avant, parce que c'est vrai que ton balado, il va toucher beaucoup la différence et tout ça.
Ouais.
Puis on s'est questionné là-dessus, à ce qu'on pouvait dire par rapport à la maladie d'Alzheimer, par rapport à la différence. Puis, tu sais, on se disait que finalement, la différence, on la constate beaucoup dans le regard des autres, en fait.
Mmh.
Et qu'on va se sentir différent par rapport au regard des autres. Mmh. Puis qu'on peut se sentir très valorisé aussi par le regard des autres.
C'est
ou bien
vrai.
Différent à cause du regard des autres. Donc, déjà, à la base, dans l'approche qu'on fait à Carpe Diem, ben, on va beaucoup mettre de l'avant de voir la personne avant sa maladie. Donc, voir la personne avant la maladie d'Alzheimer.
Ouais.
Donc, souvent, ben, tu sais, quand on va accompagner les gens, quand on va les rencontrer, ben, ce qu'on veut savoir avant tout, c'est qui ils sont comme personnes,
mmh.
avant de savoir toutes les difficultés qu'elles ont en tant que malades.
Mmh.
Le travail de Frédéric et puis après ce qu'on fait dans la maison, bah, c'est vraiment d'aller déceler, bah, c'est qui votre conjoint, c'est qui votre proche, c'est qui votre père,
qu'est-ce
personne
qu'il aime,
il est, c'est quoi mm-hmm. les loisirs qu'il aime, c'est quoi ses forces, c'est quoi son caractère, mm-hmm. les beaux accomplissements qu'il a fait dans la vie. Puis à partir de là, on va construire des choses avec lui, sans nier la maladie,
ouais.
mais en mettant l'accent sur la personne qu'il est.
Ouais. Ouais.
Je dirais aussi que souvent, les gens disent que ceux qui vivent à Carpe Diem n'ont pas l'air malades, mais c'est pas qu'ils sont pas malades, parce qu'on regardait un peu, on parlait des stades et tout ça. T'sais, nous, on regarde pas les stades de la maladie, mais on essaie de regarder la personne avant tout.
Ouais.
C'est important de voir, comme Charlotte disait, ben qui elle est, mais aussi c'est quoi son quotidien, puis qu'on s'y colle. Tu sais, quelqu'un qui... puis on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais on a des services qui sont disponibles à Carpe Diem en externe, dont de l'accueil de jour. Ben, par exemple, quelqu'un qui va avoir joué au quai toute sa vie, là, qui a fait partie d'une ligue de quai et tout ça, ben ça va faire du sens pour lui de venir jouer au quai avec nous les vendredis après-midi, mais quelqu'un qui aimait pas ça, ben ça lui convient pas. Fait que, tu sais, au-delà de la maladie, nous, on s'attarde à qui elle est la personne. Qu'est-ce que c'est son quotidien? Quelqu'un qui vit à Carpe Diem, ben si c'est une dame que chaque matin, là, elle prenait son café, elle lisait son journal, puis après, elle prenait un bain. Mais c'est ce qu'elle va faire aussi à la maison, à Carpe Diem. Ça sera pas différent. Nous, on va s'adapter à qui elle est. Et non le contraire. Puis ça fait vraiment partie d'une des choses qui est très importante pour nous, là.
Je pense que c'est une des différences majeures qui m'avait vraiment touchée par rapport à Carpe Diem, c'est que c'est pas la personne qui doit s'adapter au milieu, c'est le milieu qui s'adapte à chaque personne. Mm-hmm. Puis ça, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Puis je pense que ça respecte la dignité de la personne, l'humilité, puis tout court, la personne à part entière qu'elle est malgré la maladie, malgré l'évolution de tout ça. Puis je trouve ça beau. Vraiment.
Puis c'est vrai que, tu sais, en lien avec ta première question d'origine, je dévie un peu, mais tu sais, c'est quoi la maladie? Ben, c'est vrai que tu as raison, la mémoire est touchée. Donc c'est sûr que malgré que les gens veulent continuer à faire ce qu'ils ont fait toute leur vie, ben, nous, les personnes en face ou les familles, il faut quand même qu'on adapte quand même notre accompagnement. Parce que si on sait que la mémoire, c'est quelque chose qui est touché, ben, ça va faire en sorte qu'on ne va pas poser des questions là-dessus. On va éviter de dire à la personne... qu'est-ce que tu as fait ce matin, qu'est-ce que tu as mangé ce midi, parce que c'est la mémoire à court terme qui est une des principales touchées au début. Donc, on va éviter de mettre la personne à défaut confrontée à ses pertes et à ses difficultés. Donc, c'est pas évident quand on est la personne en face. Nous, c'est notre travail, on a appris ça, mais quand tu es une famille, c'est pas toujours évident d'arriver à... de moduler ta façon de parler, de réfléchir avant de parler, alors qu'avant, c'est des phrases que tu dirais spontanément. « Qu'est-ce que tu as fait ce matin, hier? Qu'est-ce que tu as regardé à la télé? » Ben non, tu sais, ça, c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à ne plus dire parce qu'on va mettre la personne en difficulté.
La confronter à des chocs, des fois, de se rappeler qu'elle ne se souvient plus.
Exact.
De ce qu'elle a mangé, exemple, ce matin.
Exact. As-tu bien dormi cette nuit? Ah, ben, ça devient compliqué de répondre à ce genre de questions.
OK.
Wow, je suis contente de te revoir. ben, je t'ai jamais vu, ou ouais, tu sais, ces petites phrases-là qui font appel un petit peu au passé, c'est le genre de choses qu'il faut qu'on évite.
C'est difficile, je pense.
Soit plus dans le moment présent, en fait.
Oui,
oui.
Ouais.
Carpe diem, pardon, excuse-moi, vas-y. Carpe diem, ça veut dire profiter de l'instant présent. Mm. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Dans notre interaction avec les personnes, c'est aussi ça. Là. Profiter de l'instant présent et d'être dans le moment présent. Ce qui s'est passé hier, les gens ne s'en souviendront peut-être pas. Ce qui se passera demain, les gens ne se projettent pas nécessairement. Ouais. Mais eux, ils sont dans le moment présent et nous aussi, on doit l'être avec eux.
Puis ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est aussi l'importance justement que nous, quand on accompagne les gens, qu'on soit sensibilisé à ça aussi, puis qu'on les connaisse réellement. Puis pour ça, on met en place des outils dont, entre autres, j'aime bien parler de l'histoire de vie puis de la présentation de la personne qui permet, en fait, de justement relater un peu par écrit avec l'aide des familles, l'aide de la personne aussi, selon les situations. Bien, justement, elle s'est mariée en quelle année? Ils ont eu combien d'enfants et tout ça? Puis après, les gens qui accompagnent, les différents intervenants qui sont autour de la personne, ils les ont en tête, ces informations-là. Donc, si, par exemple, je sais pas, moi, la personne parle de ses enfants, puis elle se rappelle plus des noms, on peut pister, on peut guider pour à la fois préserver sa dignité aussi, mais qu'elle se mette pas en échec.
Oui.
Donc, cette connaissance réelle-là des personnes, cet intérêt réel-là qu'on a vers eux dans la façon qu'on a de les accompagner, ça fait une différence aussi extrême pour eux au quotidien.
Là. Oui. Puis, dans le fond, tu sais, pour une personne qui s'inquiète pour un proche, qui pense que, exemple, sa mère, son père, son grand-père débute peut-être la maladie d'Alzheimer, c'est quoi le processus qu'il faut qu'elle entende à ce moment-là?
Bien, c'est une bonne question. Moi, j'aurais envie de dire, puis on s'en est parlé avant, puis on se disait que c'était ça qui était important aussi à véhiculer, que c'est mieux d'être plus proactif que pas assez dans la demande d'aide. Parce que la maladie d'Alzheimer, en général, c'est sûr qu'il y a des particularités, mais c'est une maladie qui est comme en petite pente douce, que j'aime appeler. Ça évolue, mais tranquillement. Avant un diagnostic, des fois, ça peut être 10-15 ans de petits oublis, de petites choses qu'on remarque en tant que proche avant qu'un diagnostic soit posé. Puis même après, ben ça évolue lentement. Ce qui arrive, c'est que c'est un petit peu insidieux pour quelqu'un, mettons, c'est son conjoint ou son parent, de donner de l'aide, de l'aide, de l'aide, puis à un moment donné, se ramasser au bout de ce qu'il est capable d'offrir, puis là, de lever un drapeau rouge et dire « j'ai besoin d'aide ». Fait que l'importance d'être proactif, puis d'aller chercher, tu sais, un peu de l'aide, des services, de l'information, même, tu sais, moi, on est 4 intervenants familles qui est là à Carpe Diem à temps plein, que ça fait partie de notre travail que d'offrir de l'écoute, du support, des informations. Fait que c'est toujours ce que je nomme que la proactivité là-dedans, si jamais les gens ont des doutes puis qu'ils se questionnent par rapport à certains comportements, certaines situations, qu'ils ne savent pas trop comment
réagir.
Moi, je dis tout le temps que je n'ai pas la vérité infuse, là, mais des fois, de réfléchir à deux, à voix haute, de
se questionner.
Oui, des pistes de solutions, regarder, ah, ben tu sais, si c'est de cette façon-là, ça va-tu mieux? Ou bon, qu'est-ce qui se passe quand que X situation arrive? Regarder autour, tu sais. Fait que je pense que c'est ça le message qui est important de nommer, qu'il faut aller rapidement chercher de l'aide, même s'ils n'ont pas l'impression qu'ils ont besoin pour l'instant de s'entourer rapidement.
Oui.
Puis c'est vrai que du coup, souvent les familles, quand elles voient des premiers signes, bah, c'est bien d'aller consulter le médecin en fait, parce que c'est vraiment une maladie qui va se diagnostiquer par élimination.
Okay.
Donc il faut aller voir si ça peut pas être autre chose aussi, parce que souvent au début, c'est les pertes de mémoire qu'on constate.
Okay.
Et des pertes de mémoire, bah, il peut y en avoir quand tu fais une dépression, t'as une tumeur au cerveau, quand des personnes sont dénutries, déshydratées, manque de sommeil. Tu sais, il y a plein de choses. Donc, les médecins, ils vont vraiment aller voir par élimination, faire un bilan médical, sanguin, tout ça, des scanners et tout ça. C'est vraiment... faut vraiment aller consulter le médecin, parce qu'on ne peut pas donner un diagnostic, même si on accompagne des gens tous les jours de la maladie d'Alzheimer, on n'est vraiment pas médecin. Donc, ça passe vraiment par le médecin, un bon bilan médical, pour poser un diagnostic.
Puis, qu'est-ce que vous répondez, dans le fond, aux personnes qui se demandent c'est quoi les stades de cette maladie-là? Qu'est-ce que ça peut engendrer à long terme, l'évolution de la maladie, jusque où ça peut aller, tout ça, quand vous recevez ce type de questions-là?
Bien, en fait, il y a une partie où c'est très différent d'une personne à l'autre. Il y a certains traits de personnalité qui, par exemple, peuvent être exacerbés avec l'évolution de la maladie. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui est très anxieux déjà d'avance, il y a certains filtres, disons, sociaux qui, par exemple, là, je suis bien nerveuse, mais je me dis, ah, je le garde pour moi, je prends sur moi, que des fois, vont être plus difficiles à maintenir avec l'évolution de la maladie. Fait que, par exemple, quelqu'un pourrait être plus nerveux, mais ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ça dépend aussi de quelle façon ou dans le cerveau la maladie est touchée. Fait que pour deux personnes qui ont le même diagnostic, qui ont la même âge, puis que ça évolue à la même vitesse, disons, ça peut être complètement différent d'une personne à l'autre. Donc, tu sais, c'est un peu difficile de dire, bon, mais tu sais, là, on est stade 4, admettons, puis nous, on se fie pas vraiment à ça non plus. Là. Ça.
Je sais pas si tu vas ajouter. Oui, parce qu'en fait, déjà, la maladie, c'est très long.
Ouais.
Et c'est vraiment c'est progressif. Déjà, si on voit un changement brutal chez une personne, il faut aller chercher autre chose. Il faut pas se dire, oh, c'est la maladie qui évolue brutalement. Tu sais, des fois, une infection urinaire, ça fait changer le comportement d'une personne. C'est pas la maladie qui évolue. Des fois, on met beaucoup de choses sur le dos de la maladie, mais c'est pas nécessairement la maladie, ça peut être autre chose. Donc, c'est quand même une maladie qui est très lente. Ça peut durer, c'est ça, jusqu'à 20 ans. Donc les pertes se font très progressivement. Puis, effectivement, comme dit Frédéric, ça va pas évoluer de la même manière pour chaque personne. Des fois, ça va être le langage qui va être plus touché. Des fois, ça va être la compréhension. Des fois, ça...
Est-ce que ça peut toucher aussi au niveau moteur?
Oui, exact. Puis, tu sais, quelque chose qui est des fois assez peu nommé, mais c'est tout ce qui est l'organisation aussi.
OK.
Et ça, c'est important de le nommer parce que, tu sais, par exemple, une personne peut adorer cuisiner. Elle a cuisiné toute sa vie, elle adore ça. Si tu lui demandes de faire une recette, c'est compliqué parce que faire une recette, bah, ça veut dire prendre la recette, suivre la recette, sortir tous les ingrédients, sortir la planche à découper, sortir le couteau, faire les choses dans le bon ordre. Tout ça, c'est de l'organisation. Donc, les gens, des fois, bah, ils arrêtent de le faire. Pas parce qu'ils aiment plus cuisiner, mais parce qu'ils sont plus capables de faire toutes ces étapes, puis ça les confronte trop.
Ouais.
Mais ce qu'il faut vraiment retenir avec la maladie d'Alzheimer, puis peut-être probablement dans chaque maladie, mais c'est que les gens, ils veulent continuer à être utiles, ils veulent continuer à être valorisés, ils veulent pas rester assis toute une journée sur une chaise à rien faire.
Non, ils veulent un sens à leur vie.
Mais oui, donc il faut les familles, les proches, les associations, il faut qu'on continue à impliquer les gens dans ces petits gestes du quotidien, mais il faut les pallier. Tu sais que la personne, elle aime cuisiner, bah, ça se peut qu'on sorte la planche, qu'on sorte le couteau, qu'on sorte la patate, puis que là, on dise à la personne, est-ce que vous voulez m'aider à la couper? Puis là, la personne, elle va le faire, elle va être contente. Mais une des choses qui est super importante, c'est ne jamais confronter les gens. Puis ça, c'est pas évident. C'est pas évident quand on est un proche. Des fois, tu te dis, oh non, mais elle se souvient plus de ça, elle est plus capable de faire ça. Tu sais, ça nous met on peut se sentir en colère face à la maladie, tout ça, on peut perdre patience. Mais vraiment, d'essayer de ne pas confronter les gens et d'essayer de, tu sais, par des petites phrases toutes simples, mais tu sais, peux-tu m'aider à couper les légumes? Ben là, c'est elle qui m'aide. Ça la revalorise, elle.
Ça la valorise, elle.
Exact, c'est elle qui m'apporte de l'aide. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est difficile aussi pour les gens qui vivent avec cette maladie-là, c'est que finalement, dans leur quotidien, ils se font aider tout le temps. Ils ont besoin d'aide pour tout, finalement.
Ouais.
Toute l'organisation d'une journée, tous les petits gestes et tout ça. Et ça, là, ça joue tellement sur la dignité, sur le regard que tu portes de toi-même.
C'est vrai.
Quand à longueur de journée, tu te fais dire, je vais t'aider à t'asseoir, je vais t'aider à t'habiller, je vais t'aider
à m'habiller. Non, fais pas ça.
Ou voyons, t'es supposé te rappeler de ça, ou de telle personne.
Ça fait mal, ça fait mal aux personnes. Donc, il faut qu'on bannisse certaines phrases de notre vocabulaire comme « je vais t'aider
».
Parce que quelque part, quand on dit ça, on vient dire à la personne « je vais t'aider parce que tu n'es plus capable de le faire tout seul ». Et le remplacer par des phrases qui est
« positives.
Tu m'aider, c'est ça.
Ouais.
Pouvez-vous m'aider à vider la vaisselle? Pouvez-vous m'aider à sortir les poubelles? Peu importe. »
Est-ce que vous avez d'autres subtilités comme ça, des interventions que vous pouvez utiliser dans l'accompagnement avec ces proches-là, des conseils à donner à d'autres proches qui accompagnent des personnes qui vivent avec l'Alzheimer, des subtilités vraiment dans les gestes, dans les phrases, peu importe dans quoi en fait là?
Bien, c'est sûr que nous, on, comme Charlotte disait, on fait avec et non faire pour. Donc, on fait avec les gens. Tu sais, dans le contexte, justement, de la cuisine, on a...
c'est notre beau décor.
on a un groupe en accueil de jour dans l'église qui est dans le sous-sol de l'église, là, parce que je sais pas si les gens savent, là, mais nous, on est situé sur, ben, dans le quartier Saint-Sacrement. Donc, on est dans un ancien presbytère et dans une église.
Ah!
Ouais, fait que dans le sous-sol de l'église, on a comme une cuisine complète qu'on a décidé d'utiliser pour un groupe de gens qui, justement, dans leurs intérêts, un peu comme elle disait, ben, tu sais, des gens qui ont cuisiné toute leur vie, qui ont fait full dessert pour leur famille, des grandes familles, tout
des
ça.
Des réceptions.
Ben, exact. Puis que peut-être que pour eux, toutes les sous-étapes, ben, c'est difficile, mais avec une... quelqu'un qui est là pour accompagner, ben c'est possible. Ben, on s'est dit, pourquoi pas faire un groupe dédié à ça avec des gens qui ont cet intérêt-là. Mm. Puis, ben, dans la façon de faire, on fait avec les gens, bien sûr, mais aussi, une chose que je trouve vraiment beau de ce groupe-là, c'est que les gens repartent avec, que ce soit de la soupe, des desserts. Fait que quand leurs proches viennent les chercher en fin de journée, ils rapportent le souper ou ils rapportent le dessert. Tu sais, ça fait partie des petits détails qui font toute la différence dans, justement, le fait de se sentir utile, d'avoir, tu sais, la boucle de dire, ben écoute, je suis venue ici, j'ai fait à manger puis je nous rapporte le souper.
C'est vrai.
Donc, ouais, le faire avec, ça fait vraiment partie. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples dans...
Tu sais, quand on voit qu'une personne ne se souvient pas de quelque chose, essayons pas de la confronter puis de la convaincre que ça s'est réellement passé. Ça aussi, tu sais, c'est pas nécessaire. Tu sais, des fois, tu sais, je sais pas, je vous donne un exemple. Ça arrive que, je sais pas moi, les gens vont marcher à l'île Saint-Quentin, par exemple. Puis, ils reviennent, puis là, bêtement, tu sais, je veux dire, ah, ben, c'était comment l'île Saint-Quentin? Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ah, mais j'y suis pas allé, moi, à l'île Saint-Quentin. Sa mémoire à court terme, je lui pose une question qui vient la confronter sur quelque chose qu'elle a oublié. Ben là, j'essaierai pas de dire, ben oui, vous êtes allé à l'île Saint-Quentin, là, vous en revenez, puis tu sais... Ça va juste la faire sentir mal parce qu'elle ne s'en souviendra pas. Ou encore, ça va briser un peu ma relation de confiance avec elle parce qu'elle va se dire, monsieur, tu sais, je suis jamais allée, puis je te crois pas, puis tu sais.
Absolument.
Donc, je suis mieux de m'excuser puis de dire, excusez-moi, tu sais,
je me suis trompée.
Je suis peut-être trompée, ou tu sais, c'est ça, mais essayons pas de confronter ou de les ramener à notre réalité. Quand ça s'est effacé de ta mémoire, c'est comme si ça n'avait jamais existé.
C'est vrai.
Donc. On sera jamais gagnant dans notre relation à essayer de convaincre les gens.
Puis d'en prendre un peu sur soi dans ce temps-là, c'est pas mal. C'est comme dans l'exemple de Charlotte, de dire « Ah ben, hey, ça se peut que je me sois trompée, là. » C'est pas plus grave versus de dire « Ben oui, alors... »
C'est pas comme si la personne ne fait pas exprès. C'est hors de son contrôle, hors de sa portée. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que, un peu comme tu dis, ça confronte, ça fait que créer des effets négatifs pour la personne. J'ai envie de savoir un peu dans l'accompagnement de ces personnes-là. On va peut-être revenir peut-être au service, ça va aider là, un petit peu là, dans la maison, dans le fond. Est-ce qu'il y a des gens qui restent là tout le temps? On a parlé, d'une portion répit, la portion aussi intervention famille, puis il y a la maison. Est-ce que vous voulez un petit peu démystifier tout ça, tous les services que la maison peut offrir?
Mais en fait, on a la portion, disons, service externe, donc accueil de jour où les gens viennent à Carpe Diem, d'où, par exemple, justement, faire à manger en après-midi ou aller jouer au billard ou sortir prendre un café ou peu importe. On a la portion accompagnement à domicile. Donc, c'est des intervenants qui sont formés, là, qui travaillent aussi à Carpe Diem dans la maison et tout ça, qui vont aller à domicile. À ce niveau-là, il va y avoir différents objectifs qui peuvent être rencontrés. Ça peut être de dire, aller prendre une marche, aller boire un café, mais ça peut être aussi de dire, mon proche, j'aimerais ça peut-être voir au roulement, mettons, des aliments dans le frigo parce que, mettons, ma mère, j'ai l'impression que des fois, elle mange des choses qui sont avariées. Dans ces moments-là, c'est sûr que nous, on va toujours prioriser notre lien de confiance au-delà de la tâche. Fait que l'intervenant n'arrivera pas la première journée. Bonjour, Madame une telle, je m'en viens faire le ménage de votre frigo.
Okay.
On bâtit notre lien avec la personne, puis on fait avec. Donc, tu sais, c'est de dire, est-ce que vous voulez qu'on regarde ensemble? Puis on pourrait peut-être aller à l'épicerie faire certaines courses en même temps si vous voulez.
De suggérer au lieu d'imposer.
Exactement. Ça, puis on ne va jamais mettre en péril notre relation avec la personne. Des fois, il va avoir des envies des familles de dire, par exemple, un accompagnement pour les soins d'hygiène, on brisera pas notre relation pour ça. On va essayer, mais en douceur, disons.
Ouais.
Donc, ça, c'est pour la partie accompagnement. Ça peut être vraiment large au niveau de ce qui sont nos objectifs. On a aussi différents cafés-rencontres, des cafés-rencontres pour les proches. Des cafés-rencontres pour les proches, mais spécifiques pour conjoints-conjointes, parce qu'on s'entend qu'il y a quand même certaines particularités au niveau de l'intimité ou de la sexualité qui ne sera pas rencontrée quand c'est ton parent, disons, que tu accompagnes. On a des cafés-rencontres aussi pour les gens en début de maladie. Ça, c'est vraiment des personnes qui vont avoir certains enjeux. Il y a des gens qui ne verront jamais leurs difficultés avec la maladie, mais il y en a qui vont les voir puis que ça va être très confrontant, très anxiogène, qui vont ressentir le besoin d'en parler. Donc, on a des cafés-rencontres pour eux, justement, où c'est des petits groupes de gens qui ont la maladie qui viennent échanger à ce niveau-là. Puis, c'est sûr que nous, comme intervenants en famille, on offre aussi, comme je disais, un peu le soutien psychosocial aussi, puis différentes informations par rapport à l'approche ou la maladie. Puis aussi, on a la maison, en fait, avec des gens qui y résident. Fait que, si tu veux, poursuivre.
Mais l'idée, tu sais, c'est que on sait que, on l'a dit plusieurs fois, mais la maladie, c'est quand même une maladie qui va être très, très longue, puis qui va aller en avançant toujours. Donc finalement, les gens, ils vont avoir besoin de services, mais l'idée, c'est qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut offrir, de quoi ils vont avoir besoin. Puis même s'il y a des services qu'on ne met pas encore en place, s'il y a un besoin, on va le faire. L'idée, c'est que, parce que ce qui est difficile avec la maladie aussi, c'est que les gens, ils vont être confrontés à plusieurs intermédiaires au cours de leur maladie. Puis à un moment donné, tu as besoin d'aide à domicile. Mais après ça, ça ne suffit pas. Puis tu as besoin d'aller en accueil de jour. Puis après ça, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies du répit. Puis après ça, il faut que tu sois hébergé. Et du coup, à chaque fois, les gens, il faut qu'ils ouvrent leurs portes à des nouvelles personnes, se refamiliariser avec du nouveau personnel, re-raconter ton histoire. Puis souvent, les gens, ils ne veulent pas de service non plus parce que c'est quand même difficile d'accueillir des gens chez toi.
C'est un processus de deuil aussi, j'imagine, là-dedans. L'acceptation de tout. Tout ce qu'ils peuvent vivre à travers ça. Là.
Exactement, t'as bien raison, parce qu'à chaque fois que tu ouvres ta porte, c'est que tu acceptes que tu perds quelque chose et que tu as besoin d'aide.
Ouais.
Donc l'idée, c'est de dire, essayons. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le même personnel. T'sais, l'idée, c'est qu'il y ait le moins d'adaptation possible pour les gens. Donc c'est la même équipe qui intervient au domicile qui intervient à Carpe Diem.
Wow.
Donc ça fait qu'au début, on arrive à rencontrer les gens quand ils sont encore chez eux, quand ils ont encore la force de nous parler, de nous raconter leur vie, qu'on voit la dynamique c'était quoi sa vie, c'est quoi sa maison, c'est qui sa famille, c'est quoi qui est important pour elle. Puis petit à petit, après ça suffit plus le domicile. Donc elle va venir en accueil de jour, mais là, elle aura les mêmes intervenants qu'elle a dans sa maison, elle va les retrouver en accueil de jour.
Puis c'est plus facile au niveau du lien.
Exact, du lien. Puis quand elle va venir à Carpe Diem, elle connaîtra déjà l'équipe, elle connaîtra déjà les résidents. Donc ça sera moins difficile de s'adapter. Puis tu sais, Frédéric a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est bien d'aller chercher des services rapidement parce que c'est dur de créer une relation de confiance.
Ouais.
Souvent, les familles, elles attendent parce qu'elles portent tout sur leurs épaules. Et puis, à un moment donné, elles vont chercher de l'aide, mais au moment où elles n'en peuvent plus. Puis ça, c'est dur parce que leurs proches, du jour au lendemain, il faut qu'ils soient hébergés, par exemple, ou il faut qu'ils s'adaptent à du personnel qu'ils ne connaissent pas. Mm. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident pour la personne qui vit avec la maladie. C'est pas évident pour la famille non plus.
Non.
Qui ne connaît pas du monde qui débarque chez eux et qu'il faut qu'ils apprennent à connaître. Donc, c'est vrai que la relation de confiance, quand on est capable de la créer
progressivement
c'est gagnant pour tout le monde.
Ouais.
Ça permet aux familles de garder ce qu'ils souhaitent dans la relation avec leurs proches.
C'est vrai.
Ils ne sont pas obligés de tout faire.
Hein. Non.
Tu sais, je veux dire, quand on regarde chacun nos vies, j'ai la comparaison des enfants avec des personnes âgées, ça n'a rien à voir.
Non.
Mais sauf que, admettons, nos enfants, là, moi, je serais une très mauvaise enseignante. Je suis bien contente que l'école existe pour apprendre des choses à ma fille. C'est pas parce que tu deviens proche aidant d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer que tu dois assumer tous les rôles.
Non.
Il faut choisir. Moi, ce que j'aime faire avec mon proche, c'est, continuer à aller faire les courses ensemble, continuer à aller jouer au golf ensemble. Parfait, gardez ça avec votre proche.
Ouais.
Mais ce que vous aimez moins faire, essayez de vous entourer pour que ce soit d'autres qui le fassent. Parce que sinon, les gens vont s'épuiser. T'sais, 24 heures sur 24, c'est difficile. Puis ça va être un long marathon. C'est long, la maladie. Donc, il faut arriver à s'entourer par des proches, par des organismes, mais qui fait que on va continuer à être bien dans notre relation avec notre proche.
Oui, parce que faut pas oublier que souvent, quand c'est nos proches, il y a une charge émotive aussi là-dedans, pas juste de responsabilité, de soins, de besoins et tout ça. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment ça, cette charge émotive-là. Puis qui se disent au contraire qu'ils devraient s'en occuper, exemple, de leur mère, de leur père, jusqu'à la fin de leur vie, qui ne veulent pas les placer, puis un peu, tu sais, ils sentent mal de demander des services pour les aînés parce qu'ils veulent s'en occuper, puis ils veulent leur bien-être. Mais il y a cette charge-là émotive aussi de voir la personne qu'on aime, tu sais, peut-être perdre des capacités. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que c'est tout ça. C'est un deuil aussi pour les personnes autour de d'autres gens qui vivent avec la maladie d'Alzheimer.
Exact. Puis c'est une maladie où, malheureusement, il n'y a rien à faire.
Non.
Tu sais, c'est pas comme t'as un problème cardiaque, t'as un médecin qui va prendre soin de toi, tu vas aller chez le cardiologue, tu vas te faire opérer. Mais la maladie d'Alzheimer, le plus efficace, c'est la relation. C'est la relation que les gens vont réussir. C'est une maladie qui s'accompagne par la relation, qui s'accompagne pas vraiment par des médicaments qui... Donc finalement, c'est ça. C'est ça qu'ils ont besoin, les gens. Donc, c'est là-dedans qu'il faut s'entourer aussi.
Puis, tu sais, j'ajouterais tantôt, quand je disais que les gens souvent disent qu'à Carpe Diem, les gens n'ont pas l'air malades, je pense qu'il y a une grosse partie aussi qui vient avec la façon d'accompagner. Tu sais, dans la maison, on aspire à ce que ça ressemble, en fait, à ce que c'est une maison, mais avec beaucoup de gens qui y vivent, tu sais.
Oui.
Mais une grande maison conviviale où les gens, déjeunent ensemble, vont se prendre un café, font leur toast, montent, descendent les escaliers, sortent prendre une marche. Tu sais, on a cette particularité-là où, tu sais, effectivement que la porte n'est pas barrée, mais en même temps, on sait qu'il y a... des gens qui peuvent partir prendre une marche, c'est bien correct, puis ils reviennent, puis on sait qu'ils partent à peu près une heure et demie. Puis si après une heure et demie, ils sont pas revenus, on peut les appeler, dire « Ah, avez-vous besoin d'un transport de retour, êtes-vous correct? » D'autres gens qu'on sait que s'ils sortent, ils peuvent se perdre. Puis à ce moment-là, on reste quand même aligné sur le besoin de la personne, c'est-à-dire si elle a besoin de sortir, prendre l'air. Est-ce que ça se peut qu'elle trouve ça trop, là, en ce moment, tous les gens qui viraillent autour d'elle, puis qu'elle a besoin de prendre... un moment pour respirer? Est-ce que c'était quelqu'un qui sortait marcher chaque jour, tu sais, puis que ça fait partie de justement qui elle est? Bien, à ce moment-là, on ne dira pas non à la personne, mais on va l'accompagner à l'extérieur, prendre une marche pour sa sécurité, mais aussi en respectant son besoin. Donc, l'accompagnement, il fait vraiment pour beaucoup aussi, là.
Puis quand vous approchez les gens pour les accompagner, exemple à la salle de bain, est-ce qu'il y a des subtilités à faire quand on accompagne un proche comme ça dans des soins?
Ça dépend des gens.
Exemple, si une personne ne veut pas, tu sais, est-ce que vous allez la prendre par la main, que vous allez l'emmener quand même, ou si, exemple, elle ne veut pas aller à la salle de bain ce soir-là, est-ce que vous allez essayer des techniques diverses ou vous allez juste laisser la personne dans son besoin d'être toute seule à ce moment-là? C'est touché comme question, peut-être, là.
Premièrement, les plus grands experts, à la base, c'est les familles.
Oui, à la base,
on va se baser, on va voir avec eux. Comment vous y prenez? Qu'est-ce qui fonctionne? Ou qu'est-ce qui l'a fait réagir? Puis en fonction de ce qu'ils vont nous dire, ça va nous permettre, nous aussi, de nous ajuster.
Okay.
Oh, ça va bien quand je le fais de telle manière. Parfait. Nous, on va se calquer sur ce que vous êtes en train de faire pour qu'on ait tous la même manière de faire. Ou, oh non, moi, ça marche vraiment pas. Comment vous y prenez? Donc là, on peut identifier certaines choses. Tu sais, des fois, c'est les mots. C'est sûr que... Tu sais, on n'en a pas parlé beaucoup des mots, là, mais ça, c'est quelque chose sur lequel on est très vigilant aussi. Les mots qu'on va utiliser pour parler des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Tu sais, si on dit à la personne, ta couche est pleine...
devant tout le monde, admettons.
Tu fais de l'errance, tu fugues.
Viens, on va aller prendre notre douche, en utilisant le « on ». Nous, on proscrit beaucoup ça.
On essaye d'avoir d'utiliser aucun terme qui pourrait mettre mal à l'aise
la personne. Ouais. Wow.
Après, c'est difficile de t'expliquer parce que c'est effectivement...
C'est vraiment dans le vécu, je pense que...
Oui, puis c'est dans tout ce qu'on ne dit pas que...
Oui, c'est ça.
Puis ça vient beaucoup avec la relation qu'on a avec la personne. Ouais. La personne, elle nous fait confiance, elle a un lien avec nous. Donc, c'est sûr que déjà ça, c'est pour beaucoup. Puis d'une personne à l'autre, il y a plein de petites particularités. Tu sais, j'ai plein de gens en tête qui ont des particularités qu'on connaît puis qu'on fait. Mais en soi, est-ce qu'il y a une façon de... pas vraiment.
C'est du cas par cas.
Des fois, il y a l'aspect d'utiliser beaucoup de mots aussi. Des fois, les gens vont utiliser beaucoup, beaucoup de mots, donner plein d'instructions pour vouloir aider. Mais des fois, à un moment donné, là, trop de mots, là, ça devient là, juste comme un brouillard là, pour quelqu'un. Puis ça peut être anxiogène, ça peut refermer la personne. Donc, des fois, utiliser plus des gestes, être dans la douceur, puis de prendre le temps. Là. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait une bonne différence.
Petit moment d'interruption pour vous parler de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet Yamaska. Saviez-vous que l'école secondaire La Découverte de Saint-Léonard d'Aston bénéficie d'une belle salle de spinning de 30 vélos? La Fondation a participé pour un montant de 10 000 $ à ce projet visant à maintenir et à développer les saines habitudes de vie de nos jeunes. Les élèves ont accès à la salle de spinning sur l'heure du dîner et elle est utilisée lors des cours d'éducation physique. La salle est aussi mise à la disposition du personnel après l'école. Si vous voulez encourager la Fondation, vous pouvez visiter leur site web et aller faire un don au www.fondationsantébny.ca. Dans la maison, c'est quoi un petit peu les routines, l'horaire? Est-ce qu'il y en a une, premièrement, dans la maison? Est-ce qu'il y a des différences, exemple, d'un CHSLD? Y a-tu le droit aux animaux, tout ça? Tu as parlé tantôt d'une maison qui c'est conviviale, que les personnes peuvent facilement sentir comme chez eux. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer comment ça se passe?
Pour revenir sur la maison conviviale, effectivement, de quoi les gens ont besoin, en fait? Souvent, les gens, ils veulent rester chez eux. Mmh. Ou ils veulent vivre dans une maison.
Ouais.
Donc, l'idée, on se calque sur ce qu'ils veulent et on essaye de le mettre en place. Donc, c'est une vraie maison. Donc, ça veut dire qu'on est des vraies personnes. Donc, on n'est pas des soignants. Donc, on ne porte pas d'uniforme. Mmh. On est habillé en civil. Parce que les gens, ils ne veulent pas qu'on leur reflète la maladie tout le temps. Mais si je porte un uniforme, qu'est-ce que je viens lui montrer? C'est, vous êtes le malade, je suis le soignant. Donc, c'est pour ça qu'on est habillé...
Puis encore là, ça rappelle la maladie, cette étiquette-là.
Donc, tu ne verras pas non plus de pancartes sur les bureaux, bureau de l'infirmière, bureau de la direction. Il n'y en a pas. Tout ce qui est médical, c'est gommé dans la maison.
Wow.
C'est pareil, on a des médicaments, on a des choses comme ça, mais c'est dans des garde-robes qui ont l'air de vrais garde-robes. On n'a pas de chariot de soins ou de chariot de ménage qui peut rappeler quelque chose d'institutionnel. Donc, c'est comment nos besoins sont les mêmes, hein, nos réglementations sont les mêmes, la certification, toutes les règles, on les suit à la lettre.
Ouais.
Mais c'est comment on peut gommer le plus possible tout ce qui est médical pour que ça ait l'air d'une vraie maison. Donc, ça, c'est un premier aspect. Après, c'est vraiment... On part de c'est qui la personne? C'était quoi un 24 heures pour elle? À quelle heure elle se levait? Qu'est-ce qu'elle faisait en se levant? Est-ce que, je sais pas moi, elle aime ça relaxer 15 minutes dans son lit puis après se lever? Ou est-ce qu'elle bondissait du lit direct puis tout de suite elle sautait dans la douche? Est-ce qu'elle aime prendre un café en lisant le journal? Donc on se base là-dessus. Donc c'est vraiment les familles qui vont nous décrire un 24 heures d'une personne.
Et les habitudes.
Exact. Et après, on les applique. C'est tout. Donc, si une personne avait l'habitude de se lever à 6 heures du matin, elle va continuer à se lever à 6 heures. Si elle se levait à 10 heures, elle va continuer à se lever à 10 heures. Si elle se couche à minuit, elle va continuer à se coucher à minuit. L'idée, c'est de ne pas les changer. Tu sais, pas de faire un...
Wow.
Puis, tu sais, bien sûr qu'on a une organisation au travers de ça.
Ouais.
Mais justement, on essaie le plus possible que ce soit pas vu.
Ouais.
Donc, par exemple, on a des plans de table. Les gens vont être assis à des endroits spécifiques selon les besoins. Il y a des gens qui vont avoir besoin vraiment de plus de concentration pour manger, qui vont avoir besoin d'un espace où il y a moins de gens, où il y a moins de bruit, où il y a une intervenante qui est auprès pour peut-être initier le mouvement si finalement c'est plus difficile, je sais pas moi, manger la soupe ou peu importe. Donc, ça, c'est tout réfléchi. Mais bien sûr qu'on ne dit pas aux gens, par exemple, vous êtes assis ici parce que vous avez besoin de plus de tranquillité. C'est fait comme par en arrière. C'est le genre d'organisation qu'on fait. Il y en a beaucoup, mais on s'assure que les gens le ressentent pas puis qu'on réponde à leurs besoins dans notre façon d'être. Fait que c'est sûr qu'on dîne à une telle heure puis on soupe à une telle heure, mais au travers de ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, lui, soupait pas vraiment, mais se levait la nuit pour manger des toasts? Il va continuer de le faire puis ça va être correct. L'intervenante qui est là la nuit,
est au courant,
le monsieur se lève puis il veut manger des toasts, va lui offrir, tu sais. Puis une dame qui, par exemple, dormait pas beaucoup, puis dormait un 3-4 heures, a toujours dormi un 3-4 heures, ben si elle se lève puis qu'elle se promène, ben c'est correct, tu sais. Pour nous, il n'y a pas de problème, de problématique, là, finalement.
Wow.
Fait que, ouais.
Wow. Tu sais, juste pour compléter, la maladie, là, ce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais tu l'as nommé, là, c'est la concentration. Les personnes ont beaucoup plus de difficultés à se concentrer et ont beaucoup plus de difficultés avec le bruit. Okay. Donc ça, c'est des petites choses auxquelles il faut qu'on fasse attention. Tu sais, quand on parle beaucoup à la personne, ça, c'est compliqué pour elle de se concentrer. Ou quand on est plusieurs à parler devant elle. Tu sais, des fois, par exemple, je ne sais pas, une famille dit « Oh, ben, on va inviter notre mère au restaurant pour son anniversaire. » Puis là, ils reviennent, puis ils vont dire « Oh, ben, on dirait que ça lui a pas fait plaisir. » Ben, c'est sûr que ça a été compliqué pour elle, parce qu'il y a le bruit du restaurant, il y a 8 personnes de la famille qui parlent, chacun les a par-dessus les autres.
Ouais.
La personne, finalement, ben, elle s'isole, elle rentre dans sa bulle parce que ça devient trop compliqué.
Ouais.
Des fois, on dit ben, « Vous êtes mieux, les 8 personnes, de venir chacun une journée dans la semaine
ouais. pour profiter d'un moment. »
Pour l'anniversaire, mais vous allez être tout seul avec elle, avec ouais. en relation avec vous, même si c'est juste 15 minutes. Mais ce sera plus bénéfique que 2 heures à table avec plein de bruit autour. Donc, tu sais, le bruit, là... bien important. T'sais, on mange, on éteint la télé, on éteint la radio, on éteint la hotte de poêle. C'est des petits bruits, ça rien qu'une hotte de poêle. Hein.
Ouais.
Ça suffit pour qu'une personne arrête de manger parce que ça la déconcentre.
Mm.
T'sais, les gens vont avoir de la difficulté à faire 2 choses en même temps.
Okay.
Donc, t'sais, entendre un bruit et manger, ça devient compliqué les deux.
On parle de bruit, puis ça me fait penser, est-ce que à cause de ces éléments-là, il y a peut-être moins de petits-enfants, d'enfants qui viennent à la maison visiter les personnes, ou ça n'a pas de lien du tout?
Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que s'il y avait des enfants une journée entière dans la maison, ça pourrait être compliqué.
Ouais.
Mais le bonheur de voir des enfants puis d'être
ben,
en
oui.
interaction, ils l'ont encore.
Oui,
ben
oui.
Mais tu sais, les enfants de l'école d'à côté, ils étaient là hier après-midi, ouais. ils ont passé l'après-midi. Mais tu sais, ils viennent une demi-heure, une heure.
Okay. Mmh.
Puis c'est super agréable. Ils font des. Il y a un monsieur en ce moment qui est professeur de tir à l'arc dans sa vie, puis qui apprend aux enfants à tirer à l'arc.
Wow.
Il y a une transmission.
C'est dans même beau.
Puis, t'sais, donc ça, ben, on continue à le faire parce que c'est...
Puis j'ajouterais à ça aussi que pour nous, les familles, c'est vraiment important. T'sais, c'est sûr qu'on respecte leur niveau d'implication. Ça, c'est une chose.
Ouais.
Mais après, ils sont toujours bienvenus. Si les familles viennent, ils sont bienvenus à rester à souper. Voulez-vous qu'on vous installe, t'sais, juste vous ensemble? T'sais, pour nous, c'est vraiment important qu'ils soient les bienvenus, qu'ils puissent passer quand ils veulent. Puis t'sais, s'ils viennent avec les petits-enfants, tout ça, ben on va être tous bien contents de les voir, puis on trouve ça nécessaire aussi pour la personne, tu sais, dans la mesure de... Fait qu'on s'adapte, finalement. Mais c'est sûr que, tu sais, peut-être 15 enfants une journée de temps, peut-être qu'on l'organiserait, mais oui...
Peut-être plus d'organisation là-dedans, mettons. Là,
ouais.
Mais, ouais. OK.
Tu parlais des animaux aussi. Ben, là, il y en a à Carpe Diem, des animaux.
Oh.
Mais c'est pas parce qu'une personne vient que nécessairement on va accepter...
Non, c'est ça.
Mais à chaque fois, on va se poser la question, est-ce que c'est important pour elle?
OK.
Puis, il y a des personnes, bon, ben, ça les dérangeait pas de quitter leur logement sans leur animal, mais il y en a pour qui, ben, c'est non négociable. Tu sais, moi, je déménagerais pas sans mon chat ou mon chien.
C'est essentiel pour eux. Ouais.
C'est, tout le monde peut, peut s'imaginer ce que ça fait.
Ouais.
Donc on l'essaye, tu sais, les animaux viennent, et puis, tu sais, c'est dur de dire à l'avance, ah non, ça marchera pas. Tu sais, on est qui pour prétendre que ça fonctionnera pas? On essaye, tu sais, là, on avait un chien et un chat, en même temps, on se dit, oh, est-ce que le chien et le chat, ça va...
Oh, ouais.
Les chambres côte à côte et tout ça. Puis finalement, il n'y a jamais eu de problème.
Wow.
Donc, tu sais, allons-y. Puis finalement, ça devient un peu les animaux de la maison après. Puis ils se promènent un peu partout. Puis ça met de la vie. Ben, c'est comme la vraie vie, finalement.
Ouais.
On fait pas... Tu sais, l'idée, c'est pas de faire de la zoothérapie. C'est
non.
pas de faire de la cuisinothérapie. C'est juste de la vraie vie. On cuisine tous les jours parce que les gens ont cuisiné tous les jours. Ouais. On mange tous les jours. Ouais. Et on a des animaux parce que les gens en avaient chez eux.
C'est de préserver, dans le fond, les acquis de la personne puis de tout ce qu'elle aimait faire avant, tu sais, le plus possible dans la mesure du possible aussi.
Okay. Puis Charlotte, elle a dit quelque chose de vraiment important, je trouve, c'est qu'on se dit on laissait, tu sais, dans la mesure du possible, mais souvent, on est agréablement surpris, finalement, des essais qu'on fait, puis le fait d'arriver à être justement créatif, puis disons, c'est pas malléable, le bon mot, mais en tout cas, tu sais, de dire qu'on essaie les choses, puis...
Ouais.
Puis on voit, finalement. Ouais. Puis ça fait partie de nos forces, la souplesse, finalement.
Oui, c'est ça, la souplesse. Je cherchais le mot, moi aussi, en même temps, pour t'aider.
Je suis avec malléable, mais c'était pas ça.
Oui, je comprends. Mm. Mais c'est vraiment une belle approche. Puis chaque fois que j'en entends parler, ça me fascine à quel point c'est humain, cette approche-là. Puis que je pense que ça devrait être encore plus connu aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je tenais vraiment à ce que vous veniez d'en parler aujourd'hui ici. Puis je ne sais pas si je me trompe, est-ce qu'il y a un livre de Carpe Diem? J'ai fait une petite recherche tantôt, vite, là, mais comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus.
C'est trop compliqué ce qui est
très bien. Ouais, de la...
De Carpe Diem, de la... Neuro...
Juju, notre caméraman, est-ce que tu peux faire une petite recherche, vite?
De la neuropsy.
En fait, c'est un livre qui a été écrit par Nicole Poirier puis Roger Gilles. Nicole Poirier, c'est la directrice et fondatrice de la maison Carpe Diem.
Ok. Que,
en fait, pour faire l'historique un petit peu, Carpe Diem, c'est... il y a 40 ans, en fait, Nicole Poirier, qui avait 21 ans à l'époque, vivait dans sa maison familiale de chez ses parents. Puis une amie à elle lui dit « Ah, ce serait bien que tu puisses accueillir des personnes âgées dans ta maison. » Parce qu'au Québec, il n'existe rien entre... Soit tu es chez toi, ou soit tu vas en CHSLD, mais il n'y a pas d'intermédiaire.
Oui, entre les deux.
Puis là, elle a trouvé ça intéressant. Donc, elle a demandé à son père si elle pouvait accueillir des personnes âgées dans la maison familiale parce que ses frères et sœurs étaient partis. Puis la maison était vide. Et du coup, son père trouvait pas que c'était une très bonne idée parce qu'il ne trouvait pas qu'elle avait trop le profil de ça, parce qu'elle sortait tous les soirs, parce qu'elle ne rangeait pas sa chambre, parce qu'elle ne savait pas cuisiner. Elle se dit comment tu peux tenir une maison alors que tu ne fais rien de tout ça. Mais dès le départ, elle, son idée, c'était « Oui, mais moi, si je n'ai pas cette force-là, puis cet intérêt-là, je veux que les gens ils puissent continuer à le faire si eux, ils l'avaient, cet intérêt-là. Mmh. » Donc, dès le début, son idée, c'était d'impliquer les gens puis qu'ils continuent à être actifs.
Mmh.
Puis, suite à ça, y a une des personnes là-dedans qui a eu la maladie d'Alzheimer. Puis là, elle s'est rendue compte qu'elle arrêtait de faire certaines choses, cette dame. Par exemple, s'il y a eu des « voulez-vous m'aider à cuisiner ?» la dame, elle disait non. Donc là, elle disait « bon, c'est qu'elle ne veut plus cuisiner, mais c'est peut-être qu'elle n'avait pas compris les mots.
Mmh. »
Mais que quand, par exemple, Nicole Poirier, elle brassait la soupe, qu'elle faisait le geste, la dame, elle arrivait, puis elle brassait la soupe.
Donc, juste de boire le geste,
exactement.
Ça pouvait initier le mouvement.
Que les mots, peut-être à un moment donné, les gens ne les comprennent pas, mais les gestes, les gens les comprennent très longtemps. Mmh. Elle avait supposé que la personne savait plus cuisiner ou voulait plus cuisiner, mais en fait, c'est pas ça. C'est juste qu'elle n'avait pas bien communiqué avec elle. Donc, en communiquant avec les gestes, ça fonctionnait.
Okay.
Puis, donc, ça a été sa première expérience avec la maladie d'Alzheimer. Finalement, cette dame a quitté la résidence, elle est allée vivre, elle a fait une chute, elle est allée à l'hôpital, puis là, elle a été contentionnée au niveau physique, puis au niveau des médicaments, puis elle est devenue très agressive. Puis c'est là qu'elle s'est rendue compte que ce qui l'avait rendue comme ça, c'était l'environnement, en fait.
Oui.
Et qu'il n'existait rien pour les personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer il y a 40 ans. Donc là, elle s'est dit, j'aimerais ça ouvrir une maison pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer.
Mmh.
Et c'est là que, pendant 10 ans, elle s'est battue pour avoir le droit d'ouvrir une maison. Ce qui était refusé à l'époque parce qu'elle voulait une cuisine, elle voulait des escaliers, elle voulait des portes ouvertes.
Mmh. Ah.
Puis c'était jugé comme trop dangereux. Donc finalement, avec... l'appui des familles, un petit peu d'argent, puis des études qu'elle avait faites aussi. Elle a décidé d'ouvrir une maison, donc il y a 30 ans, la maison Carpe Diem, qui est toujours au même endroit aujourd'hui, basée sur ses principes, tu sais, continuer à impliquer les gens, qui continuent à être actifs, qui continuent à faire tout ce qu'ils ont toujours fait.
Wow.
Puis, pour faire une histoire courte, je reviens au livre, mais donc Nicole Poirier, qui est la directrice et fondatrice, un jour faisait une conférence en France, puis... Là, il y avait un monsieur au premier rang qui prenait plein de notes de ce qu'elle disait. Puis après ça, il est allé la voir, puis il dit « Mais vous savez que tout ce que vous dites, que vous faites à Carpe Diem, ben, tout est prouvé scientifiquement. Mmh. » Donc, par exemple, je sais pas moi, on va dire, quand on croise quelqu'un, ben, on va le regarder, on va lui sourire, on va le saluer, tu sais. On passe pas devant les gens comme s'ils n'existaient pas. Ben, lui, il dit, ben, ça, ce que vous dites, dans le cerveau, c'est telle zone qui est touchée, puis ça, ça active telle zone du cerveau et tout ça. Donc, finalement, ils ont décidé de faire un livre ensemble. Elle, la personne plus de terrain, qui explique comment on fonctionne à Carpe Diem, et lui, le scientifique, qui dit à chaque fois que pourquoi ça... scientifiquement, c'est prouvé.
Ils se sont comme complétés un et l'autre.
Sous forme de conversation aussi dans le livre, c'est vraiment bien.
J'ai trouvé le livre.
Ah bon, super!
Ça s'appelle Alzheimer, de Carpe Diem à la neuropsychologie.
C'est
une des deux l'avait dit tantôt. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Écoutez, notre entrevue est quasiment déjà terminée, mais j'aimerais savoir si chacune d'entre vous aurait un seul conseil à donner à une personne qui vit avec une autre personne qui vit avec l'Alzheimer. Là, j'ai vraiment été utilisée personne, là, mais est-ce que vous comprenez comment on peut accompagner un proche qui vit avec l'Alzheimer? Votre meilleur conseil que vous avez donné à une famille?
Moi, je reviendrai au fait de s'entourer rapidement. T'sais, je pense que c'est important d'avoir un filet de sécurité autour d'eux qui est diversifié parce qu'avec la proche aidance, il y a beaucoup d'isolement qui a lieu. Puis les gens, comme disait Charlotte tantôt, ils vont très loin dans leur accompagnement jusqu'à temps d'être à un moment donné vraiment au bout du rouleau puis de se sentir désespéré. Donc, c'est important d'aller cogner à des portes, d'aller chercher des ressources. Puis pas que nous, mais entre autres nous, tu sais, ça fait partie, moi, de mon travail. Puis, fait que j'encourage les gens, finalement, à aller chercher de l'aide rapidement.
C'est bon. Puis d'être... Tu sais, nous, on a choisi de faire ça dans la vie, mais... et puis, on est capable de se dire, « Ah, oh, ça, j'ai mal fait », puis de se remettre en question et tout ça, puis d'avoir un regard critique. Tu sais, accompagner l'équipe, puis accompagner des familles, c'est pas la même chose. Tu sais, je veux dire, on a une exigence envers nous qu'on ne peut pas avoir envers les familles. Il faut pas trop s'en mettre non plus sur les épaules en tant que famille.
Oui.
Je vais reciter Nicole Poirier, là, on m'en voudra pas, mais tu sais, elle nous a tout appris, là, tu sais, elle est très brillante et intelligente, puis... puis en même temps, sa mère vivait avec la maladie d'Alzheimer aussi il y a quelques années. Puis elle est venue vivre à Carpe Diem. Puis elle nous disait, faudrait pas que vous me voyiez dans ma chambre avec ma mère. Parce que tout ce que je vous dis de faire, je fais l'inverse avec ma mère. Tu sais, quand t'as un lien affectif, c'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment se laisser une chance en tant que famille. Parce que c'est pas évident là, de voir son proche changer. Ça fait de la peine. Donc, prenez le rôle que vous voulez prendre, puis vous ne serez jamais jugé là-dessus.
C'est vrai. Ouais. Mais merci tellement d'avoir été là, puis d'avoir peut-être fait un peu plus la différence pour les personnes qui vivent avec l'Alzheimer. Puis, dans le fond, dernière question que je vous lance, si vous auriez un seul mot à associer au terme de la différence, ça serait quoi?
Ce qui me vient, moi, c'est beauté.
Ah, oh, c'est beau.
La richesse.
La richesse.
La curiosité. En tout cas, que des choses...
Il y en a tellement, là, mais oui. Fait que beauté, richesse. Je pense que c'est les deux mots de la fin, puis ça résume un peu beaucoup l'approche Carpe Diem aussi, je trouve, en même temps. C'est plein de beauté, de richesse, puis c'est beaucoup centré sur la personne. Fait que, merci vraiment à vous d'avoir... de vous être déplacé ici aujourd'hui, puis merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés.
Merci pour l'invitation, merci pour ta belle initiative, ton beau projet.
Merci.
Tellement. Plus on va parler, plus ça va devenir banalisé finalement, puis ça va rentrer dans la normalité.
Merci beaucoup.
Et si j'apprenais à t'aimer, vaut mieux faire de toi mon allié. Peut-être qu'il n'y a pas de distance entre les gens et ma différence.